RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour. En France, le grand débat national touche à sa fin. 2 mois de dialogue entre les citoyens, dont sont censés émerger des propositions pour sortir d'une profonde crise sociale révélée par le mouvement des Gilets jaunes. Et parmi les motifs de colère, l'affaiblissement des services publics. Cette semaine, RFI vous propose donc d'ausculter ces services publics au travers d'une série de reportages sur les transports, la santé, la justice, la recherche d'emploi et l'éducation. Aujourd'hui, les enseignants qui jugent leur école. Grand reportage, signé Laurence Théo.
Les missions de l'école, elles sont hyper nobles, hyper ambitieuses. Et je pense que l'idée de former des citoyens, on y est très attachés.
Apprendre la vie. Et on nous apprend à accéder à la vie professionnelle et tout ça.
Donner aux élèves les outils dont ils ont besoin pour être des citoyens autonomes et se débrouiller dans la vie.
Alors moi, pour moi, la première mission de l'école, c'est l'émancipation. Et dans l'émancipation, il y a la question du choix.
Partager avec ceux qui ne sont pas comme vous, partager avec ceux qui ne savent pas, c'est la mission fondamentale de l'école.
À quoi sert l'école ? L'éducation nationale reste le premier budget de l'État, c'est aussi le premier employeur public. Mais sur la question « L'école remplit-elle ses missions ?», l'éducation nationale a refusé d'ouvrir les portes de ses collèges aux journalistes. Nous rencontrons donc des professeurs dans le local syndical du SNES, le premier syndicat des enseignants.
Quand on regarde ce qu'on a balayé de la maternelle au bac, c'est quand même... Enfin, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses.
Ils ont entre 30 et 40 ans. Marie Chardonnet, Hervé Chauvin, François Béral et Marine Auchandeau sont enseignants en collège ou en lycée. Ils ont la passion de leur métier.
On aime tous ce qu'on fait, sinon ça ne marche pas. C'est tellement compliqué comme métier que si on y va à reculons, ça ne peut pas durer, ce n'est pas possible. Donc on est tous à se plaindre, hein, parce que voilà, on aimerait que ça fonctionne mieux. On a tous plein d'idées sur comment ça pourrait mieux fonctionner. Et pour autant, voilà, on aime ce qu'on fait, on aime nos élèves, et c'est sûr que voilà, si la fonction publique fonctionne, c'est parce que les fonctionnaires fonctionnent, et à l'école aussi.
Enfin, nous, on était au rectorat hier en commission, où on a ouvert une centaine de dossiers d'enseignants. C'est que des belles choses, quoi, je veux dire, et y compris notre institution reconnaît que cet enseignant s'investit auprès de ses élèves non francophones, tel autre sur l'ouverture à l'international, qu'emmène des élèves de banlieue à l'autre bout du monde. Enfin, voilà, des choses, c'est le quotidien quand même de l'éducation nationale.
Cet investissement des enseignants, les parents d'élèves le reconnaissent, mais ils sont critiques à d'autres égards.
Moi, je trouve que les maîtres sont vraiment à la hauteur et ça n'est pas facile.
Et c'est superbe, les profs, ils font vraiment ce qu'ils peuvent avec beaucoup d'amour, etc. Après, les systèmes en soi, je ne trouve pas génial. Chaque année, par exemple, les classes, ça change. Donc, il n'y a aucune stabilité pour les enfants, c'est toujours du stress. Il y a plein de choses comme ça qui sont, pour moi, mal foutues.
D'abord, je pense qu'il faut des effectifs plus réduits. Quelquefois, pour certains enseignants, une motivation qui doit être difficile à conserver au plus haut niveau. Parce que c'est un métier un peu ingrat.
Plus d'autorité aussi, ça paraît bête de dire ça maintenant, mais je pense que ça manque un peu d'autorité.
À nous, on est très satisfaits. On a eu une maternelle très très bien, toute petite. Et puis aujourd'hui, notre fille est en primaire et ben, ils sont 12 dans la classe.
J'ai remarqué qu'il y avait un fossé en termes de niveau entre le public et le privé. Je m'en suis rendu compte parce que donc ma fille qui était la première de la classe en troisième, je me suis dit bon non, là maintenant je vais quand même la mettre dans un lycée privé. Et quand elle est arrivée dans le privé, la différence en termes de niveau était telle qu'elle est arrivée dernière de la classe.
L'ascenseur social fonctionnait mieux, pardon, il y a une trentaine d'années.
Est-ce que vous avez entendu les liaisons sur les mots ? Vous avez entendu ça ?
Un professeur stagiaire en début de carrière gagne 1 434 € net par mois. Bien trop peu, selon Marie Chardonnet, professeur de français dans un collège en banlieue parisienne.
C'est bon pour tout le monde ? Au boulot.
Le revenu moyen des enseignants en France, parmi les pays de l'OCDE, c'est démentiel. On est devant la Grèce, etc., mais tellement loin derrière l'Allemagne. Et on prend même pas la Scandinavie, parce que voilà, on sait qu'il faut pas comparer. Mais l'Espagne, l'Espagne, Italie... et le Portugal sont devant la France, hein, quand on regarde le salaire moyen des enseignants. Nos élèves ne nous respectent pas quand ils découvrent combien on gagne en début de carrière. Moi, je l'ai vécu, prof principal de 3e. Ils regardent les fiches de l'ONICEP, parce qu'évidemment, la première qu'ils vont regarder, c'est prof, hein, parce que c'est le seul métier qu'ils connaissent vraiment au quotidien. Ils regardent, ils disent « Madame, c'est pas possible, vous pouvez pas gagner ça !»
Quand les enseignants prennent la parole pour juger leur école, la question de la formation des enseignants est très souvent évoquée.
C'est un point fort de l'éducation nationale en France. Les enseignants sont bons dans leur matière, il y a une exigence dans leur discipline. Et nous, c'est quelque chose auquel on est très attaché parce qu'on a fait le choix d'aller plutôt dans le second degré avec une spécialisation dans une discipline. Ça, c'est on y est attaché, mais c'est vrai que c'est parfois un petit peu au détriment d'une formation plus professionnalisante, enfin plus proche du métier. Et c'est pour ça que nous, on revendique qu'il y ait vraiment, qu'on nous laisse faire nos études dans notre discipline et qu'ensuite, on nous donne vraiment des conditions de stage qui permettent de dégager du temps pour apprendre notre métier et nous former, entre autres, à la gestion de classe, à la psychologie de l'adolescent. C'est des questions essentielles. On parle du ressenti des élèves, mais si on était meilleur justement pour décrypter l'élève qui va pas bien, l'élève qui a des difficultés psy, etc., on serait aidé, c'est certain.
Il y a des profs qui essaient de nous motiver, mais il y en a d'autres, leurs cours, ils sont pas motivants. Ils ont pas de dynamique, en fait. Le fait que les professeurs ils appellent toujours nos parents, parce que ça donne pas envie à nos parents d'être fiers de nous s'ils les appellent tous les deux secondes. Et aussi qu'ils arrêtent de nous prendre vraiment pour des manqueurs.
Il y a toujours ce côté, oui, mais de toute façon, vous nous aimez pas.
François Béral est professeur de mathématiques au lycée de Clichy.
C'est justement parce qu'on se soucie de vous qu'on se donne du mal et qu'on va vous chercher et qu'on va vous dire, là, ça va pas, il faut faire plutôt comme ça. Effectivement, l'exigence, etc., etc. C'est tout le contraire. C'est que justement, si on les méprisait, si on n'avait pas le souci d'eux, en fait, on s'en foutrait complètement, pardon, enfin, c'est vraiment ça.
C'est ça qui est dans avec les profs, c'est les rôles.
L'ambition des professeurs d'amener les élèves à la réussite est parfois mise à mal par les conditions de travail. Les enseignants les moins expérimentés sont affectés dans les territoires les plus difficiles. Hervé Chauvin est enseignant en histoire-géographie dans le Val d'Oise. Il est pessimiste sur les missions de l'école.
Le problème, à mon sens, réside dans l'écart, le fossé qui se creuse entre ce que les enseignants ont été formés à faire, ce qu'ils aiment transmettre et les missions qui leur sont assignées et le fonctionnement de l'institution. Nous, on aimerait pouvoir former des citoyens, on aimerait pouvoir former des élèves qui s'intéressent à des disciplines, des sciences, pour qu'ils puissent derrière se construire et construire un avenir. Et de plus en plus, l'institution, elle gère des flux. Elle gère des flux montant du collège vers le lycée, elle gère des flux montant du lycée vers l'université. Ces problématiques, en fait, sont complètement autres. C'est de la gestion de flux. Et c'est quelque chose que l'on constate, en fait, au conseil de classe des fins d'année, où il va se poser la question de l'orientation. Et, en fait, les choses se font, je pense, quand même globalement au détriment des élèves et en accroissant un fossé entre l'institution et les enseignants.
Sur l'égalité scolaire, la France est très mal classée par rapport à ses voisins européens. Pire, notre système creuse les inégalités sociales, malgré des politiques éducatives mises en place depuis des décennies. L'éducation prioritaire vise pourtant à corriger ces inégalités. L'idée est de donner des moyens supplémentaires aux établissements qui accueillent les élèves les plus fragiles pour leur donner des chances de réussir. Aminata Diaby est chef d'établissement. Elle accepte de témoigner hors de l'enceinte de son collège.
Ce qui ne va pas dans le système scolaire français, c'est que c'est un système inégalitaire. L'étude PISA dit une chose très importante, c'est que la réduction des inégalités est la condition de performance d'un système. La justice d'un système est la condition de sa performance. Plus un système est juste, plus il va élargir son élite et moins il va avoir d'échecs scolaires. Et c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à comprendre en France. On est héritier d'une école napoléonienne, élitiste. C'était certainement nécessaire à une époque donnée de produire très rapidement une élite, pas nécessairement très fournie, mais très performante. Mais dans notre époque moderne, il faut élargir l'élite. L'élite française est réduite. On n'arrive pas à l'élargir. Et parce qu'on n'arrive pas à élargir la base.
J'habite pas avec mon père. Ma mère, je ne sais pas. Mon père, il travaille dans les bâtiments. Enfin, mon père, il vit pas avec moi.
Et la maman, au chômage?
Oui.
Et vos parents, ils font quel métier?
Bah, rien.
Et toi?
Rien.
On voit qu'il y a un souci au niveau de l'éducation, mais qui englobe un peu tout.
Marine Ochando enseigne la physique dans un collège à Longjumeau. L'établissement est sorti de l'éducation prioritaire, mais pour l'enseignante, les difficultés persistent et l'approche doit être globale.
Il y a aussi le problème des déficits des assistantes sociales. Donc quand on se rend compte qu'il y a une situation compliquée dans une famille, le problème qu'il n'y ait pas assez d'assistantes sociales dans le secteur fait que ces situations familiales ne vont pas être traitées. Ça entraîne du coup des problèmes d'apprentissage chez les enfants qui vivent des situations familiales compliquées au quotidien et qui ne sont pas dans la capacité de se projeter dans l'avenir. On voit les élèves qui ont des soucis, qui doivent voir l'orthophoniste, sauf qu'un rendez-vous chez l'orthophoniste, ils mettent 8 mois à l'obtenir. Il y a tout qui pose problème et on voit les répercussions sur les enfants et notamment malheureusement dans les endroits moins favorisés. Et il y a absolument besoin aussi de revoir cette carte de l'éducation prioritaire, de revoir les moyens, mais de les penser dans la globalité avec tout ce qui va avec.
Oui, bonjour mademoiselle, comment ça s'est passé? Très bien. Est-ce que tu as avancé dans le loup et l'agneau? Très bien, d'accord. Tu veux nous le réciter? Alors vas-y, je t'écoute, vas-y.
Le loup et l'agneau, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure.
Ça veut dire quoi tout à l'heure dans la langue de La Fontaine?
Ça veut dire que...
Il va le montrer quand? Dans quelques instants ou tout de suite?
Tout de suite.
Très bien, bravo, ça veut dire tout de suite, exactement. Continue. Un agneau?
Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure.
Ça veut dire quoi se désaltérer?
Ça veut dire qu'il boit.
Bravo mademoiselle, félicitations.
C'est un homme singulier, un professeur en résistance. Avec ses boucles brunes, ses yeux vifs surmontés de sourcils tracés au fusain et son pull à col roulé, Augustin Dumière enseigne le grec et le latin dans un lycée de Meaux. Ses ouvrages, Un petit fonctionnaire et Homer et Shakespeare en banlieue, sont des appels à sauver l'école de la République.
Oui, quelle loi l'a donné en premier, exactement? Quelle loi l'a donné définitivement? Et là, il veut savoir quelle loi a donné qui, a donné quoi à qui.
C'est au pied des Tours Beauval, dans un quartier classé en éducation prioritaire, que se trouve son association Métis. Au centre Alain Fournier, plus de 200 écoliers, collégiens et lycéens bénéficient d'un accompagnement scolaire dispensé par des étudiants ou professeurs à la retraite rémunérés. Pour Augustin Dumière, l'éducation nationale ne remplit pas sa mission.
Elle n'arrive pas à remplir les missions qui sont les siennes et qu'elle a besoin de renforts, quoi, qu'elle a besoin de renforts, d'où effectivement des initiatives comme celle-ci, c'est-à-dire que il faut faire davantage, faire plus. Ça ne veut pas dire que l'école publique, l'école républicaine telle qu'elle a été inventée, est une idée qui est passée de mode. Pas du tout. Je pense au contraire, c'est une idée qui est extrêmement pertinente aujourd'hui et qui garde toute sa force. Seulement, c'est sûr qu'on ne peut pas, aujourd'hui, au XXIe siècle, mettre en œuvre les idéaux de cette école avec les mêmes moyens d'il y a 50 ans. On a besoin de beaucoup plus de présence sur le terrain, de moyens humains pour que l'école remplisse ses missions. Aujourd'hui, vous trouvez facilement des élèves auxquels vous demandez « Bon, mais qu'est-ce que tu as appris pendant ces 6 années ?» Tu peux juste me citer, je sais pas, un vers d'une poésie. Il n'y a rien, quoi. Moi, je demande à mes élèves, souvent quand ils arrivent en première, « Bon, d'accord, vous sortez de 11 années de français. Est-ce que vous êtes capable de me citer un vers ou une phrase d'un texte que vous aimez bien ?» Dans la plupart des classes, c'est rien du tout. Je veux dire que, et ça, c'est quand même... vous pouvez l'appliquer aussi à l'anglais, en disant très bien, vous avez fait de l'anglais pendant des années, est-ce que vous êtes capable de soutenir une conversation en anglais? C'est rarement le cas. En histoire aussi, si vous voulez. Donc il y a quand même des choses qui sont absolument alarmantes quand vous les mettez en comparaison avec le nombre d'heures. Et il faut... c'est pour ça que nous, voilà, effectivement, on essaye de faire en sorte, voilà, de colmater un peu les brèches, quoi, de venir en appui. Ma Cyril, tu m'écoutes ou pas? Mais le problème, c'est qu'il y a trop de fautes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Corrigez-moi au moins les fautes, sinon on va rien retenir.
À quoi sert l'école? Comme un leitmotiv posé cette fois aux élèves de la cité Beauval.
Nous apprendre, d'acquérir des normes et des valeurs. Comment se comporter, etc. Se comporter, travailler, apprendre la vie. Et on nous apprend accéder à la vie professionnelle et tout ça.
Amine, t'as dit de transmettre des valeurs. Est-ce que pour toi l'école doit, est-ce que pour vous d'ailleurs, parce que ça s'adresse à tout le monde, est-ce que pour vous l'école doit transmettre ce qui est bien et ce qui est mal, des choses de cet ordre-là, ou est-ce que pour vous c'est pas l'affaire de l'école de transmettre des valeurs?
Bah, en fait, c'est l'affaire de la famille. Et aussi de l'école.
Bah si, c'est aussi l'affaire de l'école, parce qu'on va tous à l'école. Et je pense que après l'école, on doit tous avoir à peu près les mêmes valeurs.
Je pense que ce qui fonctionne, c'est déjà ce qu'on fait là aujourd'hui, c'est-à-dire d'être présent jusqu'à 19h ou 20h, c'est-à-dire de prendre en charge l'élève après la classe et de revenir sur les difficultés, ça fonctionne. L'apprentissage par cœur, ça fonctionne. Des élèves qui sont capables de réciter effectivement des textes, qui enrichissent leur vocabulaire, qui travaillent leur mémoire, ça fonctionne aussi.
Bah, le truc en grec et en latin, c'est que déjà, il n'y a pas de programme.
Augustin Dumière enseigne le latin et le grec en banlieue, une matière qu'il défend.
La mythologie, ça m'a toujours intéressée. Et quand je suis arrivée en cours de grec, j'ai aussi appris l'étymologie des mots, tout ça. Et ça m'a beaucoup, enfin, ça me sert beaucoup en biologie.
Quand on voit des enfants qui sont autant de demandeurs, qui sont réjouis, qui apportent un souffle nouveau à ces matières, en étant enchantés de voir tout ce qu'elles apportent comme connaissance de la langue française, comme mythe, comme histoire de tragédie, et qu'il y a cet apport-là, on se dit, il n'est pas question, effectivement, de laisser des personnes qui ne sont pas sur le terrain, qui décident sans forcément savoir ce qu'est le grec et le latin et ce que ça peut apporter, il n'est pas question de les laisser décider, et il faut se battre de toutes ses forces pour faire en sorte, justement, que ces matières existent.
Le pont Mirabeau. Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours. Faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine.
Désolée de dire ça, mais si tu t'appelles Mamadou, c'est plus difficile de réussir que si tu t'appelles Charles. Parce que des fois, par exemple, pour faire des examens, ils vont regarder si tu habites dans une banlieue. Ils vont se dire, ah non, peut-être tu vas faire n'importe quoi. Il y a des choses de bien. Par exemple, ils nous font des sorties et ils essaient de nous préparer à notre orientation. Oui, ça dépend des profs. Il y en a qui veulent notre bien. Par exemple, j'avais une prof, elle s'appelait Madame Cook, elle faisait tout pour que j'aille en général et que je souhaite ma vie. Et cette année, j'ai une prof, je ne dirais pas son nom, et elle veut absolument que j'aille en pro, mais moi, je ne veux pas aller en pro, genre en général, et dans 10 ans, je reviendrai la voir.
La première chose que je t'ai offerte...
L'enseignant est formel, les réformes récentes ne vont pas dans le bon sens.
Mon cœur. Cette espèce de transformation de l'école en supermarché où l'élève fait son marché dans les apprentissages en disant tiens je vais prendre ça, en supposant qu'un élève de 6e est libre, mais il est libre de quoi? Il ne sait même pas en quoi consistent les apprentissages qu'on lui propose. Donc ça crée des inégalités gigantesques. Il y a ceux qui ont les codes, qui savent où aller, qui savent quelle voie prendre, et puis il y a ceux qui sont perdus. Et ça, cette idée de dire ah ben oui, mais c'est son choix à l'élève. Non, l'élève, il a besoin de quelqu'un qui l'entraîne, il a besoin de sentir une dynamique, quelqu'un qui arrive en disant voilà, moi je pense que pour toi, ce qui est bien, bah, par exemple, c'est le latin et le grec, ça va t'apporter des tas de choses sur l'histoire de la langue. Et puis l'élève suit. Il faut pas lui dire ah ben tiens, bah, quelle case tu veux que tu fais ton menu. Je trouve que c'est épouvantable. Et en clair, il va se planter, mais ce n'est pas de notre faute, c'est lui qui a choisi de se planter. Et ça, je trouve que c'est délétère et absolument épouvantable comme type de réforme.
Et c'est à Augustin Dumière que revient la conclusion.
On a affaire à un service public qui aujourd'hui ne peut pas remplir les exigences qui sont les siennes avec les moyens qu'on lui donne. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, un professeur travaille déjà 18 heures par semaine. Si jamais vous lui dites, ah ben, comme le soutien scolaire est essentiel, vous allez être présent jusqu'à 20 heures. Si vous lui demandez ça, il faut beaucoup mieux le payer. Déjà, il est très mal payé. Pour un professeur, je veux dire, c'est fait partie des... je crois que les professeurs sont parmi les moins bien payés des pays d'Europe. Donc, il n'y a pas les moyens. Ils ne sont pas là. Donc, par conséquent... Si on croit aux idéaux de l'école, il faut prendre des initiatives pour faire en sorte que ces idéaux existent. Parce qu'au rythme où vont les choses, tout ça peut disparaître quand même extrêmement vite. Je veux dire qu'il y aura tôt fait d'avoir quelqu'un qui dira « mais votre truc d'école publique, ça ne marche pas du tout ». Il y a très clairement, quand vous regardez la façon dont les effectifs de l'école privée ont grandi, ne serait-ce que dans une ville comme Paris, où il y a carrément 50% des enfants qui sont dans le privé, si vous voulez, c'est évident que... On s'oriente, grosso modo, vers le système qui est le système américain, c'est-à-dire on paye pour avoir une école correcte, et sinon les autres, voilà, c'est au petit bonheur la chance, il y a la dotation du privé.
Un grand merci à tous les participants, un merci tout particulier à l'association Métis, l'éducation nationale, les enseignants jugent leur école, un reportage de Laurence Théo, réalisé par Pierre Chaffanjon.